MIPIM 2025 en partenariat avec Envie de Ville by Nexity sur Radio Immo.
Eh bien bon, rebonsoir les amis, on est ravis d'être avec vous. Eh bien écoutez, on va toucher au terme de cette première journée. Nous sommes le 11 mars 2025. C'est l'édition de cette année du MIPIM et nous sommes à Cannes. Bon, il semblerait que la pluie ait un peu cessé. Bon, on ne peut pas avoir le beau temps chaque année. On est ravis en tout cas d'avoir partagé cette journée avec vous. Je vous rappelle qu'on a eu ce grand entretien avec la ministre du Logement ce matin. Vous étiez très nombreux à la suivre. Je rappelle que tous les podcasts que nous avons enregistrés aujourd'hui sont disponibles sur l'application de Radio Immo. C'est gratuit, allez-y. Pas de souci. On est ravis en tout cas de conclure sur des actions puisqu'il est important aussi de réfléchir sur le sens que l'on veut donner à la ville, à la fabrique de la ville, plus largement avec ce métabolisme qui est parfois particulier, en tout cas un métabolisme lent qu'on appelle la ville, dans toute sa dimension. Une fondation qui est née en 2008 à l'initiative de Bertrand de Feydeau, qui est son fondateur. Bien évidemment, vous l'avez compris, c'est la fondation Palladio. Et j'ai le plaisir d'avoir, je crois même que c'est la première fois qu'il vient sur mon plateau.
Absolument.
Et Joachim Pfliger. Bonjour Joachim.
Bonjour. Plutôt bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir et merci de cette belle invitation de conclure cette première journée.
Alors, ben écoutez, on va justement phosphorer un peu. Vous êtes le délégué général de la fondation Palladio. D'ailleurs, on va faire un petit clin d'œil à sa présidente Meka Brunel. J'espère qu'elle va nous écouter. Je pense qu'elle nous écoutera.
Elle nous écoute.
En téléchargeant le podcast, ou en tout cas en nous écoutant. Meka, on pense bien à vous. Alors, Fondation Palladio, on va toujours faire dans la répétition, puisque pédagogie oblige. On va rappeler les fondamentaux de la Fondation Palladio. Pourquoi a-t-elle été créée? Quel est son but aujourd'hui?
Fondation Palladio, qui est sous l'égide de la Fondation de France, a l'intérêt général chevillé au corps. Elle a été créée en 2008 pendant une crise immobilière en particulier. L'idée, c'était de se dire on doit pouvoir réunir les grands acteurs de l'industrie de la ville pour penser, et en particulier pour penser la ville durable, pour penser la ville inclusive, celle qui met la préoccupation des habitants au centre de l'équation. C'est une histoire qui s'est construite au fur et à mesure des années avec un axe qui est assez fort, Sylvain, sur la transmission, sur le soutien aussi à la recherche, sur l'Institut Palladio qui est bien connu du monde de la ville, et puis depuis quelques années de la grande dynamique de l'université de la ville de demain, je devrais presque dire l'université Palladio de la ville de demain. L'idée, c'est quoi derrière? C'est de pouvoir anticiper des évolutions, de pouvoir dialoguer ensemble entre secteurs privés, entre secteurs publics. Il y a des maires et des maires de référence de villes moyennes, de métropoles qui nous accompagnent depuis des années et qui réfléchissent avec nous, qui réfléchissent avec le secteur privé, qui réfléchissent aussi avec la société civile. On a quand même la chance chez Palladio de pouvoir toucher le milieu associatif, des personnalités, des experts très engagés sur les questions notamment d'impact environnemental, de transition urbaine, d'impact social et sociétal. Et puis, pour le dire ainsi, c'est aussi l'histoire d'une communauté de mécènes, d'entreprises présentes à nos côtés, plus de 110 acteurs aujourd'hui, qui veulent en fait faire avancer ces sujets-là, y compris en période de crise. Et je dirais même à un moment où on doit se poser les questions de la durabilité, la question de quelle ville on construit ensemble. Et donc on a besoin de l'ensemble de ces parties prenantes pour le faire.
Toutes les parties prenantes, y compris les élus, bien entendu. Alors, dans l'actualité de la Fondation, vous avez lancé, ou vous les avez déjà lancés, c'était le 3 mars, un appel à candidature qui est valable jusqu'au 14 avril. Quelle est l'idée de cet appel à candidature?
L'université.
Rejoindre une coalition d'acteurs.
Par collectif, chez Palladio, on se dit qu'il faut pouvoir donner corps à des coalitions d'acteurs, des acteurs qui peuvent être du champ privé, du champ public, quelques experts qui représentent l'industrie de la ville, mais qui portent le début d'une solution, qui ont une idée qui peut être de transitions urbaines, d'impact environnemental. Et chez Palladio, en fait, ces actions collectives, elles sont nées de manière assez spontanée ces 4 dernières années dans le giron de l'université de la ville de demain. La construction hors site, par exemple, avait d'abord pu venir se présenter au sein de l'un des sommets de l'université de la ville de demain. La question de l'intensité d'usage, qui devient un sujet très préoccupant et très prégnant de ces derniers mois, est née aussi sous les auspices de la Fondation Palladio et de son université de la ville de demain. La question de la part de l'ESS dans les nouvelles constructions avait été présentée.
L'ESS, économie sociale et solidaire.
Économie sociale et solidaire, absolument. Et donc, en fait, on a décidé cette année que pour donner aussi plus de corps, mais aussi aller chercher des initiatives originales qui viennent, qui sont portées par les acteurs, sont des acteurs qui décident d'avancer ensemble, en collectif, sans demander de changement législatif ou réglementaire, et qui ne demandent pas de financement public spécifiquement, mais qui se disent qu'ensemble, ils peuvent inventer une solution urbaine qui peut être démultipliable, qui peut être passée à l'échelle sur le territoire. Quentin Brière, le maire de Saint-Dizier, avait fait état en fait, de la difficulté de construire du neuf sur son territoire il y a quelques années à l'Université de la Ville de Demain. Eh bien, c'est chose faite. Il l'a annoncé en particulier aujourd'hui avec le soutien de Grand Paris Aménagement et un partenaire qu'est la Ville d'Aubervilliers. Ils ont lancé une alliance foncière, une alliance territoriale qui permet d'attirer à Saint-Dizier des promoteurs, des constructeurs sur du neuf, parce que c'est un seul et même acte constructif qui est proposé entre la ville d'Aubervilliers et la ville de Saint-Dizier, pour donner uniquement cet exemple-là. Mais en fait, en réalité, Sylvain, cet exemple-là pourrait être démultiplié partout en France et résoudre quelques-unes des grandes équations des villes moyennes, des villes qui sont
alors,
en difficulté.
Vous ne croyez pas si bien dire, puisqu'on a eu le plaisir d'être accueilli avec beaucoup de bienveillance par Quentin dans sa bonne ville de Saint-Dizier. Pour être très clair, quand on arrive à Saint-Dizier, on ne se dit pas qu'on arrive à Aubervilliers ou dans une ville de la première couronne de Paris. Bon. On voit bien que les prix à la fois du foncier, voire les prix même de la régénération urbaine, parfois sont même supérieurs à la valeur foncière du bien. Donc se pose l'équation de la vitalité du territoire. Quand on considère que, par exemple, cette ville est à une encablure de Paris, c'est-à-dire à peu près 55 minutes, grosso modo, une heure de Paris, on se dit, mais comment est-ce possible qu'on passe d'un prix au mètre carré, au Aubervilliers, par exemple, à en moyenne 4200 euros jusqu'à 5500 euros à Aubervilliers, voire plus, où on est sur des prix au mètre carré hors foncier de moins de 800 euros. C'est très clair. Donc c'est comment finalement réinviter à la fois aussi les populations dans cette politique du peuplement, d'aller vers des zones dans lesquelles un territoire offre un cadre de vie sans pareil.
Absolument.
Parce que c'est le sort de ces villes qui étaient liées de manière malheureusement trop exclusive, par exemple à une présence militaire. Je songe à la base militaire, justement.
De l'aviation.
Par exemple, bon, je prends Saint-Dizier, mais aussi je peux penser à l'industrie textile, le bassin minier. Je peux également parler de Châteauroux avec la disparition de la base américaine dans les années 60, qui a plongé Châteauroux dans un marasme extraordinaire, qui a permis aussi de prendre conscience de comment on conçoit aussi le territoire. Moi, je trouve ça remarquable. Est-ce que, au-delà de la théorie, du concept, cette alliance foncière, très concrètement, vous en attendez quoi? Par exemple, qu'est-ce qui peut se produire? Parce que vous êtes d'accord que les populations doivent irriguer le bassin de Saint-Dizier, les fameux bragards, avec la possibilité d'avoir, par exemple, une activité industrielle, une activité de service, etc.
Vous le dites très bien, Sylvain. Un toit, c'est d'abord un toit pour habiter, mais un toit, c'est aussi un toit pour créer de l'emploi, c'est un toit pour s'éduquer, c'est un toit pour se cultiver. Toutes ces fonctions-là qui sont urbaines sont des fonctions sociétales fondamentales. On ne crée pas de société sans ces fonctions-là. Donc on revient finalement à une définition de l'immobilier de la ville qui est fondamentalement liée au vivre ensemble. Donc en réalité, un mécanisme comme celui-ci recrée du vivre ensemble et recrée de la vitalité.
Mais comment on fait pour rétablir, enfin, j'aimerais avoir votre avis, puisque l'on fausse port un peu, mais... Comment on fait, on va candidater finalement pour l'appel, mais comment on fait pour équilibrer, parce que ça c'est ma grande question, je vais vous donner un exemple, je prends l'axe Lille-Roubaix-Tourcoing, entre la richesse possédée à Lille et l'aspiration territoriale de Roubaix et de Tourcoing, et Roubaix qui est finalement de la romaine comme on dit, puisque effectivement on n'arrive pas à sortir de l'ornière de la valorisation du territoire, comment on incite les populations à aller sur ces territoires, c'est quoi le mécanisme? Est-ce qu'on dégentrifie la ville? Est-ce qu'on déjacobinise les centres de décision? Parce que, voilà, c'est quoi la réflexion? Elle est institutionnelle? Elle est politique?
La réflexion, elle est pratico-pratique aussi, Sylvain. Un quartier de vie, il est multifonctionnel aujourd'hui. On ne construit plus comme on construisait il y a des dizaines d'années, des quartiers monofonctionnels. Et en fait, cette multifonctionnalité, elle recrée en fait les conditions de la vie. Donc, il faut pouvoir recréer les conditions de la vie. Ça veut dire un habitat de qualité, ça veut dire un immobilier qui pense en fait l'immobilier tout au long de la vie, qu'on pense aussi l'intergénérationnel. Vous savez à combien, chez Palladio, la question des publics marginalisés, les publics en situation de handicap, occupent certains de nos travaux, mais c'est aussi de penser ce lien qui fait société. Donc dans ces villes-là, très concrètement, c'est de pouvoir recréer des logiques de quartier, des logiques de bâtiments.
Et de l'activité.
Et de l'activité.
Parce que sans activité, il ne peut pas y avoir
de l'activité artisanale, de l'activité industrielle.
Si on veut revitaliser Saint-Dizier, il faut qu'il y ait du business.
Absolument.
Il faut qu'il y ait de l'activité.
Et il faut aussi
qu'il y ait de l'emploi.
Quentin Brière le dit, il faut aussi qu'il y ait de la culture. Parce que la
Absolument.
Culture, elle permet justement de.
Et c'est aussi une activité
les
nourrit
de demain.
Absolument.
Absolument.
Et alors, c'est intéressant parce que culture, économie, éducation, c'est le versant. Et bien évidemment, les loisirs qui permettent effectivement d'avoir ces villes tant voulues. On le voit puisque demain, nous accueillons. À la première heure, à 9h d'ailleurs, nous aurons Gilles Averrousse, qui est le maire de Châteauroux et président de Ville-de-France, qui rassemble ce qu'on appelle les villes moyennes, je n'aime pas trop le terme, mais des villes, on va dire, intermédiaires, avec cette même problématique. Parce qu'on a presque l'impression, mais c'est vrai en réalité, qu'il y a une espèce de compétition territoriale de grandes agglomérations qui tire à elles, finalement, la création de la richesse. Est-ce qu'on pourra arriver dans ce pays, selon vous, à essayer d'équilibrer dans une politique d'aménagement et de peuplement du territoire équilibré, qui permettra justement d'injecter de l'économie. Injecter de l'économie, ça veut dire injecter de l'emploi, ça veut dire créer du logement, ça veut dire créer des fonctions universitaires éventuellement, des écoles, du loisir, du sport, de l'éducation. Tout ça est en chemin, vous le sentez, vous ?
Et c'est vraiment dans la philosophie de Palladio depuis de nombreuses années. On a pris la question de la ville intermédiaire ou de la ville moyenne comme un fil conducteur. Et en fait, on se déplace aussi depuis Paris, on le fait dans le cadre des universités in situ, on l'a fait à Béthune au mois de novembre, on répond à la demande et aux questions d'Olivier Gacquer pour voir comment cette ville de Béthune, pour répondre à cette question-là, est une ville industrielle qui connaît un choc économique avec le départ des usines de Goodyear, mais se recrée en fait une filière de pneus complètement adaptée à la transition écologique et à la question du réemploi, de la même manière que cette année, nous irons au mois de novembre à Laval, à l'invitation de Florian Bercot. Exactement ce que vous dites, une ville qui a des atouts considérables, qui recrée, qui a des centres aussi, il y a deux écoles d'ingénieurs, une école de design à Laval, et on va venir découvrir le territoire, répondre à des questions du maire de Laval, et de montrer qu'en fait, il y a une richesse et une capacité d'action chez ces maires-là. Et voilà, Palladio, c'est ça aussi, c'est une capacité de mettre en résonance ces initiatives, ces trajectoires, et puis aussi une détermination qui est grande. Nous, ce qu'on sait faire, c'est d'apporter aussi la mobilisation du secteur privé, quelques expertises aussi, y compris dans les questions de transition. Et Palladio, dans son sommet de l'Université de la Ville de demain, qu'on répète depuis 2021, c'est exactement ça, c'est de pouvoir mettre ces différents acteurs ensemble. Et cette année, on va le faire à Versailles, à l'invitation de François de Mazières. On réunit ce grand sommet de l'Université de la Ville de demain avec une journée assez particulière.
Qui a lieu une fois par an.
Vraiment une fois par an, c'est de se dire, on se met ensemble.
Là vous attendez 1000 personnes à Versailles. Hein.
Avec François de Mazières qui nous accueille.
Ce sera le 13 juin
2025.
Quel endroit ?
Palais des congrès de la ville de Versailles. L'idée vraiment, Sylvain, c'est de faire un festival de la Fondation Palladio, de penser les actions collectives, de présenter
c'est
les actions
carnaval,
collectives.
C'est pas carnaval, c'est un festival. Hein,
de présenter les actions collectives qu'on aura sélectionnées d'un jury qui est co-présidé par Emmanuel Cos, vice-présidente de la Fondation Palladio et le François de Mazières, le maire de Versailles. On va montrer aussi ce qu'on sait faire du côté de la recherche, faire monter sur scène des chercheurs et inviter dans cette salle, finalement, les étudiants qu'on peut toucher, les chercheurs, le secteur privé, les collaborateurs des entreprises qui nous soutiennent, les élus, les établissements publics, enfin, de montrer voilà, qu'il y a une nécessité à faire ensemble et il y a une nécessité à se retrouver pour adresser la question d'habiter la ville et d'habiter la société.
Alors, il faut rappeler d'ailleurs, comme la fondation dans laquelle j'ai le plaisir d'être au comité exécutif qui s'appelle AULOGE sous l'égide de la Fondation de France, vous êtes sous l'égide de la Fondation de France, vous êtes surtout alimenté par des mécènes.
Majoritairement.
C'est donc essentiellement du bénévolat, beaucoup de bénévolat. Et je trouve que ça a beaucoup de sens dans la fabrique de la ville, puisque à travers aussi l'institution de l'Institut Palladio, qui aujourd'hui s'est imposée comme étant la référence, le maître étalon un peu de cette dynamique d'enseignement supérieure, mais également avec l'Université de la Ville de demain. Donc je lance en tant que média, voilà, je vous dis les amis, si vous souhaitez soutenir la Fondation Palladio, je pense que Joachim sera ravi de vous parler avec vous sur les modalités sur lesquelles vous pouvez le faire. Je rappelle également que tout don fait à des associations ou à des fondations a un avantage fiscal non négligeable, que vous soyez une personne physique ou une personne morale, c'est toujours bon à savoir. Puisque au lieu finalement de donner un peu trop d'impôts, bah, écoutez, donner les fonds à la Fondation Palladio, c'est pas mal.
Pour les entreprises, c'est 60% de déduction fiscale pour les particuliers.
Et c'est plafonné à
c'est plafonné. Nous, on a des sur les dons, on est sur des dons pour les membres fondateurs de la fondation et les entreprises. Il n'y a pas de plafond. Moi, j'accueille tout type de dons. Les particuliers, eux, ont une déduction fiscale à hauteur de 66% des dons au titre de l'impôt sur le revenu. On accueille aussi les dons au titre de l'IFI, de l'impôt sur la fortune immobilière.
Ça, c'est intéressant, ça. Intéressant aussi pour voilà, vous avez la possibilité de mettre votre IFI, entre guillemets, j'allais dire, de bonnes mains dans des actions qui sont quand même extrêmement importantes. On va donner l'adresse du site internet de la Fondation Palladio.
Fondationpalladio.fr.
Voilà, www.fondationpalladio.fr. Avec notre ami Théo qui va mettre l'URL sur le podcast. On était ravis de vous recevoir.
Merci beaucoup, Sylvain.
Je rappelle que vous êtes le délégué général de la Fondation Palladio, qu'on va suivre, bien évidemment, avec beaucoup de bienveillance et puis beaucoup de soutien. N'hésitez pas, d'ailleurs, à cet effet, de faire appel à nous. Alors, bonne soirée à tous et on se retrouve demain dès 9h sur Radio Immo.
MIPIM 2025 en partenariat avec Envie de Ville by Nexity sur Radio Immo.